Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Billy Yvon Lutumba à la présentation. Nous vous parlons en ouverture de ce journal vespéral de cette réclamation du droit à l'éducation reconnue constitutionnellement. Vous vous en doutez, des élèves de quelques écoles de Kinshasa et de Béni les ont revendiqués respectivement devant le bureau de l'Assemblée nationale et la mairie de la ville de Béni. À suivre dans cette édition, le point que fait la République démocratique du Congo sur la vaccination. En 2 ans, la RDC a fait plus de la moitié du chemin à parcourir, soit de 35 à 75% en matière de vaccination. Bernard Okonda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO Béni intervient en fin de cette édition comme invité pour nous parler du retrait des quelques enfants parmi les nouvelles recrues des FRDC dans le Nord Kivu. Merci de votre choix pour vous informer sur Radio Okapi, fidèles auditeurs et auditrices. Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous. Plusieurs centaines d'élèves des 6 écoles publiques et conventionnées de Kinshasa ont envahi ce jeudi le Palais du Peuple. Ils revendiquent auprès du Parlement son implication pour que la grève des enseignants cesse et que les cours reprennent dans toutes les écoles prises en charge par le Trésor public dans le cadre de la gratuité de l'enseignement. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a reçu ses élèves leur a demandé de ne plus revendiquer, promettant ainsi d'impliquer l'Assemblée nationale dans la recherche des solutions. Michel Kifindangoy. Scandant des chants écrits hostiles à la gratuité de l'enseignement, ces élèves exigent donc la reprise des cours, paralysés depuis le 4 octobre par une grève sèche des enseignants qui, selon eux, risque de sacrifier toute une génération.
Ils nous trouvent solution. C'est trop là, 3 semaines, on fait le fond et c'est comme si on fait seulement ces problèmes.
Après avoir écouté les revendications des élèves, le premier vice-président de l'Assemblée nationale promet de s'impliquer pour une reprise rapide des cours. Jean-Marc Kabound.
En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. Mais laissez-moi vous dire que la constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité, chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre. Aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement pour que cette situation soit décantée.
Pour la sénatrice Francine Muyumba, qui avait introduit une question orale avec débat sur cette grève, la revendication des élèves devrait interpeller le Parlement à jouer réellement son rôle de défendre la population.
En plus bref, les élèves des écoles publiques de Béni ont manifesté aussi ce jeudi 21 octobre 2021 sous une forte pluie. Objectif de cette marche, rappeler leur message de mardi dernier réclamant la reprise immédiate et sans interruption des activités scolaires. Lors de cette dernière marche, ils avaient promis passer à la grande vitesse si rien n'est fait dans l'immédiat. Ce jeudi, tout est parti de l'Institut Kabalaka jusqu'à la sous-division de l'EPST, chutant finalement à la mairie. À tous ces endroits, ils ont remis un mémorandum. En 2 ans, la RDC a fait plus de la moitié du chemin à parcourir, soit de 35 à 75% en matière de vaccination, a ainsi reconnu le chef de l'État lors du lancement du 2e forum national en faveur de la vaccination et de l'éradication de la poliomyélite ce jeudi à Kinshasa. Félix Tshisekedi a à cette même occasion lancé le plan Machako 02 dans l'objectif d'atteindre plus de 80% d'enfants à vacciner, soit environ 3 millions d'enfants d'ici 2022. Les intervenants représentant les partenaires ont loué les efforts du gouvernement et promis leur appui financier et logistique lors des campagnes de vaccination à venir. D'autres détails dans nos prochaines éditions. Au Nord Kivu, plus de 5000 personnes déplacées à Massissi Centre, sont exposées aux maladies dans leur lieu des refuges où elles vivent dans des abris de fortune dans la précarité. L'alerte est donnée par des humanitaires. Une mission de plusieurs acteurs humanitaires conduite par OCHA a séjourné à Massissi durant la première semaine d'octobre. Elle consistait à évaluer les conditions humanitaires dans lesquelles vivent ces récents déplacés estimés à près de 5600 personnes. Ces dernières ont fui l'insécurité dans leur village, rapporte OCHA dans sa note d'information humanitaire de mardi. Denise Lukeso.
Dans ses rapports, Ocha rapporte que ces déplacés qui vivaient dans des centres collectifs à Masisi Centre se sont délocalisés vers un nouveau site appelé Kisoko et ils sont dépourvus de tout, les exposant ainsi aux maladies diverses. En plus des questions d'accessibilité physique et de protection, ces sites présentent de nouveaux besoins en termes d'approvisionnement en eau et hygiène, accès aux soins et services de santé, accès à la nourriture ainsi qu'aux infrastructures scolaires, alerte Ocha. Pour l'heure, ces déplacés n'ont reçu aucune assistance humanitaire. La mission plaide auprès des autorités pour que ces personnes rejoignent des familles d'accueil. La société civile territoriale de Masisi craint l'apparition des maladies diarrhéiques au regard des conditions sanitaires et humanitaires précaires dans lesquelles vivent ces déplacés. À ce jour, plus de 40 000 personnes, dont plus de 60% hébergées dans des familles d'accueil, sont déplacées à Masisi Centre en raison de l'insécurité. Ces déplacés ont fui les opérations militaires que mène l'armée contre les groupes armés dans le Masisi. Goma, Denise Lukeso, Radio Kapi.
Parlons toujours des déplacés, mais cette fois-ci à Ituri, où environ 15 000 déplacés du site de Kingozé à Bounia ont bénéficié d'une assistance en vivres fournie par le Programme alimentaire mondial. Cependant, des milliers d'autres déplacés sont en situation difficile en territoire des Djougou et des Rumo à cause de l'insécurité qui rend la zone inaccessible aux humanitaires. Selon la chargée des opérations adjointe de cette agence des Nations Unies en RDC, les défis sont énormes dans cette province qui compte environ 1 900 000 déplacés. Isaac Moyopé.
Plus de 3000 familles de déplacés de Djougou ont bénéficié d'une assistance à vivre composée de farine de maïs, de petits pois, d'huile et du sel. L'opération de distribution s'est déroulée pendant 5 jours pour une ration alimentaire d'un mois. La vice-présidente du site salue cette action humanitaire qui permet de sauver des vies humaines en détresse dépourvues de tout. Deve Machozi.
J'ai l'air d'avoir mes remerciements. Si ils nous assistent pas vraiment, il y aura seulement des morts ici dans notre site. Nulle part on reçoit encore des assistances, mais c'est seulement les nations.
Pendant ce temps, plusieurs autres déplacés qui ont fui les récentes attaques des ADF en territoire des Rumu vers Komanda, Boga et Tchabi sont en détresse. Même situation dans plusieurs sites en territoire des Djougou qui sont pour l'instant inaccessibles à cause de l'insécurité. Les bureaux du Programme alimentaire mondial s'est dit conscient des défis à relever dans cette province qui compte 1 900 000 déplacés. Natacha Nadazdine, chargée des opérations adjointes du Programme alimentaire mondial en RDC.
Dans la province d'Ituri, la priorité immédiate du PAN est de répondre à la crise actuelle. Le conflit et l'insécurité ont déplacé environ 1,9 million de personnes.
Ces personnes déplacées demandent au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État dans leurs entités pour permettre le retour de la population. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Dans cette même province, des présumés miliciens Maïmaï ont attaqué la nuit dernière le village de Maou. C'est à 10 km de Makoumo dans le groupement bangolais en territoire de Mambasa. Selon l'Organisation des défenses des droits humains CRDH, ces miliciens ont incendié le campement de l'armée et blessé un policier. Les forces loyalistes sont intervenues pour limiter les dégâts. Dans la province du Nord Kivu, une dizaine de civils ont été tués la nuit d'hier à jeudi à Kalembo, un village du secteur des Rwenzori dans le territoire de Beni. La nouvelle société civile du Congo qui livre l'information dresse jusque-là un bilan provisoire des 18 civils tués et plusieurs autres portés disparus. L'armée ne confirme pas encore ce bilan et dit attendre les services spécialisés sur le terrain. Plus de détails avec André Kitenge.
C'est aux environs de 19h que les assaillants munis d'armes à feu ont fait irruption au village Kalembo, situé à quelques 6 km de la route Beni-Kassindi. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile du Congo dans le secteur de Rwenzori, toutes les victimes ont été tuées par balles. Parmi elles figurent 4 femmes. Mumbere Meleki indique que les assaillants ont également incendié 4 maisons et emporté plusieurs autres habitants avant de piller leurs biens, notamment des bêtes de la basse-cour. Suite à cette situation, indique notre source, le village Kalembo se vide de sa population depuis ce matin. Certains habitants se dirigent vers Boulongo et Kassindi, tandis que d'autres prennent la direction de Beni. Contacté, le porte-parole des opérations Sokola 1 Grand Nord confirme les affrontements dans la soirée d'hier entre les FRDC et les assaillants, sans donner le bilan avancé par la société civile. Le capitaine Anthony Mwalouchai dit attendre la confirmation des services spécialisés sur le terrain et les enquêtes qui pourront déterminer la vraie identité de l'ennemi ainsi que le bilan de cette attaque. Lac. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Parlons à présent de la réaction du gouvernement congolais après l'incursion des militaires rwandais le 18 octobre dernier. Patrick Muyaya, ministre de la Communication, affirme que des canaux diplomatiques sont utilisés pour éclaircir cette question. Il l'a dit hier mercredi 20 octobre ici à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Il ajoute que c'est un incident qui n'est pas de nature à remettre en cause les relations avec le voisin. Patrick Muyaya le dit à Paul Matendo.
Le major Ngikié a parlé des incursions, de ce qui s'est passé. Ce que nous, on a fait, au-delà de la déclaration qui a été faite, nous avons condamné cet incident et nos collègues du Rwanda ont été notifiés. Et je crois que des canaux diplomatiques ont été utilisés pour que cet incident soit vite éclairci. N'oubliez pas qu'il y a un mécanisme conjoint qui a été mis en place pour vérifier le fait et donc il y a des enquêtes qui sont en cours. On condamne, mais on regarde la nature de l'incident. C'est des incidents qui arrivent, qui peuvent arriver. Ce ne sont pas des incidents qui sont de nature à remettre en cause les rapports que nous avons avec les États voisins, mais il ne faut pas que cela se répète. Et cela a été notifié à notre voisin.
Le gouvernement n'arrive pas à créer une classe moyenne en RDC parce que l'économie est entre les mains des étrangers en complicité avec les autorités congolaises et au mépris de la loi. C'est ce qui ressort de la plénière d'hier mercredi qui a examiné la question orale avec débat adressé au ministre Eustache Mwanzi sur le dossier de la sous-traitance dans le secteur privé. Pour les députés, la loi de 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur est régulièrement violée par les investisseurs étrangers sous la protection des autorités congolaises. Michel Kifindangoy.
Dans son exposé des motifs, l'auteur de la question orale avec débat dénonce l'organisation de la sous-traitance par les étrangers en violation des dispositions pertinentes de la loi et ce, en dépit de l'existence de l'autorité de régulation de la sous-traitance. Pour plusieurs députés, les entreprises sous-traitantes étrangères sont à la base de la pauvreté criante des Congolais. Hubert Furuguta.
La quasi-totalité des employés sous le régime de sous-traitance n'ont aucun droit ou avantage. Je parle de l'assistance maladie, du paiement des heures supplémentaires, les patrons étrangers qui violent les lois congolaises contre les agents et les citoyens et la main d'œuvre congolaise. C'est la police, c'est les services de renseignement, c'est l'armée qui vient les protéger.
Les députés recommandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour empêcher les étrangers à appauvrir le peuple congolais. Bernard Mbakimansanga.
S'il faut recouvrer des taxes à un expatrié, vous donnez les injonctions là-bas et l'action à l'encontre de l'expatrié est suspendue. Quelle est la relation que vous avez par rapport aux expatriés? C'est les Chinois que vous allez trouver sur le terrain en train de vendre les aiguilles. C'est le gouvernement qui les protège. Chassez-nous ces gens-là.
Le ministre Eustache Mahanzi sollicite donc 48 heures pour rencontrer les préoccupations des députés.
Province du Maniema, dans le territoire du Kabambare. Enfin, la société d'exploitation d'or TSMSRL a signé un cahier de charge avec la communauté de Babouyou dans le cadre de la construction de certaines infrastructures de base en faveur des populations. Cette société exploite en effet des minerais dans la zone depuis plusieurs années. L'absence de cahier de charge a été à l'origine de plusieurs conflits dans ce secteur. L'accord signé le mardi dernier oblige désormais l'entreprise TSMSRL à construire certaines infrastructures en faveur de la population, comme le dit Florence Kiza.
Dans ce cahier des charges signé devant le gouverneur de province ad intérim, il est mentionné par exemple la construction de 5 écoles dans différents villages, la construction des infrastructures de santé, la construction de 2 marchés, la construction du bureau de secteur, l'achat de 10 motos tout terrain pour le chef coutumier, l'ouverture de la route Kako vers Luama long de 15 km, ainsi que l'adduction d'eau dans 3 villages de groupement de Benyabemba où elle exploite. Afan Idrissa, gouverneur ad intérim, appelle la société au respect de ses engagements.
La signature d'un cahier des charges est une chose. Le respect des obligations réciproques qu'il contient en est une autre. C'est ici l'occasion pour nous d'interpeller les deux parties au respect strict de leurs engagements respectifs.
Sentiment de joie de la part des notables de cette communauté qui attendent de voir la concrétisation de ces promesses.
Ce que j'attends de SEM, ce n'est pas seulement d'accepter de signer le cahier de charges, il faut que ce cahier de charges soit réalisé.
Nous venons de prendre un bon départ avec la société TSM.
D'un bon cœur, la société TSM SARL promet de respecter ses cahiers de charges. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
8 ressortissants nigériens ont comparu mercredi devant le Cape Town Magistrate Court pour répondre à des diverses accusations liées à des escroqueries sur Internet, au blanchiment d'argent et au vol d'identité. Les hommes ont été arrêtés mardi dans le cadre d'une opération conjointe du FBI de Hawks, Direction sud-africaine des enquêtes sur les crimes prioritaires et des services secrets américains. Ils font l'objet d'une procédure d'extradition vers les États-Unis. Plus de 100 victimes ont perdu environ 100 millions de rand, environ estimé à 6,8 millions de dollars américains dans ces escroqueries depuis 2011. Les accusés se seraient attaqués à des femmes dont beaucoup étaient veuves ou divorcées en prétendant avoir une véritable relation amoureuse avec elles. Et puis, l'avortement est désormais légal au Bénin. L'Assemblée nationale a voté jeudi la légalisation de cet acte qui jusqu'ici était interdit sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse peut être autorisée jusqu'à 12 semaines. Pour le ministre de la Santé, cette mesure vise aussi à mettre fin aux avortements clandestins.
L'invité.
La MONUSCO vient de faciliter le retrait de 17 enfants parmi les nouvelles recrues des FARDC regroupés au centre de regroupement camp général Chico Chitambwe à Beni au Nord Kivu. Nous recevons comme invité Bernard Okanda de la section protection de l'enfant de la MONUSCO Beni. Il nous parle de la procédure de retrait et de l'avenir de ces enfants dans cet entretien avec Martial Papimukeba.
Bernard Okanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de terminer avec le processus de vérification de l'âge des nouvelles recrues au sein des FARDC dans la région de Beni, Butembo et Lubero. Combien d'enfants ont-ils été retirés du centre de regroupement des Mambango?
À cette deuxième phase que nous avons effectuée aujourd'hui, nous venons de retirer 17 enfants qui ont été certifiés. Et leur âge varie entre 15, 16 et 17 ans. Et le nombre total que nous avons trouvé a été multiplié par deux par rapport à la première phase où nous avons trouvé 129, mais aujourd'hui nous avons trouvé 250 nouvelles recrues. Et sur les 250, nous avions pu retirer 17 enfants.
Quelle a été la procédure du retrait de ces enfants parmi les nouvelles recrues des FARDC?
Dans un premier temps, lorsque nous arrivons, nous procédons d'abord à une sensibilisation. Nous présentons le mandat de la MONUSCO et par rapport à l'accompagnement des FARDC, les critères aussi de recrutement, tout en insistant sur les critères liés à l'âge et le bien fondé de se présenter dans l'armée lorsqu'on a atteint 18 ans et les conséquences négatives d'entrer dans l'armée lorsqu'on a moins de 18 ans, pour faire comprendre aux candidats que quand on n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans, donc on ne peut pas être éligible au recrutement.
Cela était-il fait en collaboration avec les FARDC?
Justement, nous avons fait avec les FARDC, la cellule de recrutement officielle des FARDC, particulièrement le colonel Ndakala, qui est en charge de recrutement dans le Grand Nord. Il existe un mécanisme où nous travaillons d'abord en amont, avant même le lancement de la campagne. Et nous nous concertons pour arrêter une méthodologie de travail. Les FARDC se lancent dans la campagne. Lorsque les candidats viennent, ils nous appellent pour aller procéder à cette vérification que nous appelons évaluation de l'âge, pour éviter qu'il y ait glissement pendant le recrutement. Parce que, comme vous le savez, l'armée républicaine ne peut pas recruter les enfants à son sein.
Comment vous certifiez avec exactitude que les candidats sont des enfants?
Nous avons une méthodologie de travail. Nous ne travaillons pas seuls. Nous travaillons avec nos partenaires qui sont des ONG locales. Alors, nous procédons de la manière suivante. Lorsque l'on nous présente les groupes de personnes, nous procédons par le tri préliminaire basé sur l'aspect physiologique. Lorsque nous voyons quelqu'un physiquement, nous pouvons lui prêter les intentions d'un mineur. Et c'est ainsi que nous pouvons les retirer. Ça, c'est les tri préliminaires. Et dans ces tri préliminaires, aujourd'hui, nous avons retiré une trentaine. Et après les avoir retirés, maintenant, on procède à la deuxième étape qui est l'entretien. Et dans cet entretien-là, nous avons plusieurs éléments de repère. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas leur âge. Vous pouvez demander à quelqu'un, une grande personne, il peut vous dire « Non, j'ai 17 ans ». Nous, par nos méthodes, nos techniques, nous procédons par un entretien en rappelant certains souvenirs, en nous basant sur la généalogie, en nous basant sur certains éléments historiques de leur entourage, de leur environnement, et nous arrivons au moins à déceler à peu près l'âge de la personne.
Ces 17 enfants retirés des nouvelles récrits des FRDC sont-ils venus de quelle zone exactement?
Ces 17 enfants sont venus particulièrement de la zone de Kainama et de Kamango.
Dans les territoires de Béni.
Dans les territoires de Béni. Nous particulièrement, nous avons compris leur situation parce que ce sont les deux zones qui font objet de beaucoup de pressions des groupes armés, particulièrement les EDF. Et la plupart d'entre eux, lorsqu'on causait avec eux, ce sont certains, ils ont perdu leurs parents par le fait de ces éléments rebelles. Et les autres ont perdu même des familles. Alors, c'était ça la motivation. Ils se disent, finalement, une occasion nous a été donnée pour aller servir notre patrie tout en défendant notre terroir.
Que vont-ils devenir maintenant?
Maintenant là, ils vont être momentanément encadrés par notre partenaire, une ONG locale, qui a le financement de l'UNICEF, bien sûr. Pendant un temps, après cela, ils vont retourner dans leur famille pour aller continuer avec leurs études, parce que nous leur avons dit, lorsqu'ils pourront atteindre l'âge adulte, ils auront encore la possibilité de revenir si seulement telle est leur vocation.
Bernard Okanda, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et voilà qui met fin à cette édition de journal préparée par Élisée Ticotep et l'équipe Elamondo. Billy Ivan Lutumba était devant ce micro. Polydor Basunga assurait la prise des soins et la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.